Bonjour, vous écoutez Le Fil du Fer sur Radio FM+. Dans le cadre du partenariat avec Texte en cours, Festival des écritures contemporaines pour la scène et le micro, Le Fil du Fer et Radio FM+, reçoivent l'invité d'aujourd'hui. La 9e édition de Texte en cours aura lieu du 15 au 18 novembre à partir de 19h. Il prendra place à la Brasserie Le Dôme et au Hangar Théâtre de l'Ensad. C'est à Montpellier. Bruno Paterno fera partie de la soirée du lancement. Au Dôme, il y donnera à entendre une de ses créations. Il fera aussi connaître le projet dont nous parlerons durant la seconde partie de l'émission. Ce projet a pour nom Navigatio Poétique Eurorégion. Bruno est comédien, auteur de théâtre, élu écologiste, intervenant scolaire. Tout d'abord, évoquons son parcours. Bonjour Bruno.
Bonjour.
Vous menez un certain nombre d'activités. Pour présenter votre vie professionnelle, politique, militante, que dites-vous ?
Je dis en règle générale que je suis acteur et auteur. C'est-à-dire à la fois que je travaille mon écriture, ce que j'ai à dire au monde, et je travaille l'écriture des autres. Donc que ce soit en tant qu'écrivain ou voilà, ça peut passer par d'autres médiums, la vidéo, et puis même dans l'écriture par de la poésie, par du théâtre ou d'autres. Ou alors sinon c'est voilà, en tant qu'acteur, j'apprends à mâcher le texte des autres. En tant que lecteur, j'essaie de comprendre comment fonctionne la langue des autres.
Beaucoup de lycéens ont du mal à définir la voie d'études qu'ils souhaitent entreprendre après le baccalauréat. Quels sont vos parcours scolaires et formations post-bac ? Est-ce que ces formations ont été des évidences au moment de les choisir ?
Alors moi j'ai eu un parcours qui est parti un peu dans tous les sens, où à l'issue d'un bac littéraire spécialité anglais, parce que c'est ce qu'il y avait dans mon lycée, je suis parti sur une triple formation que je suivais du coup en alternance, donc à la fois lettres modernes, pour étudier plutôt le théâtre classique, art du spectacle, pour aller travailler le théâtre contemporain, et puis LLCR, donc langue et culture régionale en occitan, pour aller travailler les langues dans une autre langue. Et donc du coup, je faisais en alternance l'une ou l'autre des formations, et ce qui fait que je suis resté pas mal de temps à l'université. Et c'est ce qui m'a permis aussi, en fait, de déjà déguiser mon esprit critique, puisque selon les sections, on pouvait me donner, me dire tout et son contraire dans le cours juste après. Donc ça permet aussi de se poser des questions et de savoir quels étaient mes propres choix. Et puis, à l'intérieur de ça, de pouvoir creuser vraiment le sillon, l'endroit où j'avais envie d'aller. En sachant que, comme vous l'avez dit, je change pas mal de voix, je fais beaucoup de choses. Donc du coup, rien n'est immuable et rien n'est figé. Et c'est aussi parce que voilà, j'ai pu aller suivre toutes ces sections les unes après les autres, plus ou moins en même temps, que du coup, j'ai pu aussi après changer un peu de vie, pas tous les jours, mais enfin pas loin.
Et dès le départ, c'était une évidence pour vous de choisir tout ce que vous avez fait ?
Alors, pas forcément, non, c'est à chaque fois des endroits de rencontre. Moi, j'ai commencé le théâtre à l'école primaire parce que je m'ennuyais entre midi et deux et qu'il y avait une intervenante qui venait proposer un cours de théâtre. Du coup, j'y suis allé comme ça pour rompre l'ennui. Et c'est cette rencontre qui, après, m'a donné envie de continuer. Pareil, c'est parce que j'avais des amis qui tentaient le conservatoire, où du coup, j'ai appris que ça existait et qu'il y avait besoin d'une réplique. Donc, j'y suis allé pour accompagner. Et puis, c'est ça qui a fait que je suis rentré d'abord au Conservatoire de Nîmes, puis à celui de Montpellier. Et pareil sur l'occitan, quand je suis arrivé à la fac, j'étais en art du spectacle, on était mélangé théâtre et cinéma, donc on était 1000 dans un immense amphi. Moi qui venais de ma petite ville d'à côté, c'était... ça me paraissait énorme et incroyable. Et puis je passe dans l'étage d'Occitan, et là, on était... une trentaine, et la deuxième fois que je viens, déjà tout le monde connaît mon prénom, et je ne suis plus que un parmi mille, mais une personne, et donc du coup ça m'a donné envie de rester et de continuer de travailler l'occitan à cet endroit-là.
Saviez-vous, en commençant vos études supérieures, qu'elle guiderait où vous êtes aujourd'hui ?
Pas du tout, parce que je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire. J'ai toujours eu envie d'être à la fois, de travailler... Alors la matière théâtrale, ça c'était assez évident depuis très longtemps. Et par contre, d'être à la fois sur la théorie, sur la pratique, l'écriture, le jeu, en français ou en occitan, de le faire moi-même ou d'être dans la pédagogie. Enfin voilà, toujours de toute façon de changer de côté, de changer de facette, même si en fait c'est toujours la même chose que je fais, cette question d'essayer de comprendre comment fonctionne la langue des autres et quelle est la mienne. Et après, voilà, c'était de toute façon de changer de facette. Donc ça, c'est venu pareil, par les rencontres, parce que il y avait un cours de théâtre en occitan, parce que après la région, à l'époque Languedoc-Roussillon, m'a proposé de reprendre un spectacle qu'on avait fait en tant qu'étudiant. Et donc, toutes ces possibilités-là ont fait que je suis allé vers travailler à la fois sur du français et d'autres langues, notamment des langues romanes. Et c'est ça qui a commencé à créer aussi un peu l'identité de la compagnie. Mais c'est vraiment parce qu'il y avait des rencontres, parce qu'il y avait du hasard et parce que moi j'ai eu la possibilité à Montpellier d'avoir plein d'apprentissages très différents.
Et ces apprentissages aujourd'hui très différents vous amènent à être un homme orchestre quasiment. Pourriez-vous citer vos activités et dire en quoi elles consistent ?
Alors, c'est des journées très variées. Principalement, la première chose, je crois, c'est d'abord de regarder le monde et d'avoir envie de le décrire. Et donc, de à la fois être dans le constat du monde dans lequel on est et puis de faire un petit pas de côté, de rêver peut-être un autre monde, une autre façon de fonctionner. Et c'est là où on retrouve l'engagement politique, qui a un lien là-dessus. Et après, à partir de là, c'est là que le travail théâtral commence, au sens où c'est un travail d'équipe, où avec l'administrateur, la chargée de production, la chargée de diffusion, on va voir comment est-ce que, à partir de ce constat et de ces rêves, on va pouvoir créer une matière qui va avoir une existence et qui aura une existence qui va perdurer, quoi. Qu'on ne va pas jeter, puisque le but du jeu pour la compagnie Rêve du 22 mars, c'est d'avoir un théâtre de répertoire et donc de pouvoir utiliser et réutiliser les spectacles et que ceux-ci vivent le plus longtemps possible. Donc c'est de voir comment est-ce que, à la fois, il y a une urgence de dire quelque chose, il faut absolument qu'on puisse entendre ce qui va être dit, et en même temps que ce qui va être dit soit entendable et intéressant pendant les 10, 15, 20, 30 prochaines années.
D'accord. Donc vous avez, on ne l'a pas encore dit, mais vous avez une compagnie qui s'appelle Rêve au pluriel du 22 mars. Et donc à quoi rêvez-vous ? Ou à quoi rêve-t-on dans cette compagnie ?
Surtout le 22 mars, donc c'est le. Alors il y a plein d'hypothèses et de raisons à ce nom-là, mais il y en a une entre autres, c'est que le 22 mars c'est le premier jour du printemps. Donc c'est-à-dire que c'est le moment où la sève recommence à pousser. Et comme par hasard, c'est aussi le 22 mars dans l'histoire de l'humanité, une date qui revient régulièrement comme étant le début de ou le commencement de plein de luttes, que ce soit pour les Noirs américains aux États-Unis, c'est la fin du servage en Allemagne, c'est le début de mai 68, commence un 22 mars. Voilà, donc il y a plein d'endroits comme ça où tout d'un coup, parce que la sève rejaillit, les rêves commencent et poussent, et donc c'est aussi de travailler sur cette question de la naissance du rêve et d'une volonté de montrer des personnages qui cherchent à faire naître quelque chose. Voilà. Alors, certains y arrivent, d'autres pas. Ça dépend du coup si c'est des comédies ou des tragédies. Mais c'est voilà, l'objectif, c'est que ça, que de montrer qu'est-ce qui peut naître de l'humanité.
Votre implication donc se retrouve dans des domaines aussi variés, comme nous l'avons dit, que le théâtre, les langues minorées comme l'occitan, l'écologie, le féminisme, la politique, etc. Quelle est la clé de compréhension, s'il y en a une, qui vous permet de travailler sur tous ces fronts? Est-ce que c'est parce que vous avez une énergie inépuisable?
Alors oui, peut-être, mais c'est la question de prendre soin, c'est-à-dire donc de montrer aussi voilà tous ces personnages qui sont où la révolte est en train de naître, de voir comment est-ce que ces personnages-là se débattent contre le monde et du coup en général la violence qui est faite à la nature, qui est faite aux femmes, qui est faite aux langues minorées, qui est faite, voilà, à chaque fois, elle se rejoint et elle est à peu près toujours la même. Et donc, c'est de montrer les imbrications entre ces choses-là. Et puis, c'est d'essayer d'avoir une cohérence entre le fond et la forme. C'est-à-dire que, justement, pour aller défendre ces positions éthiques-là, on essaye d'avoir un théâtre qui sera le plus possible décroissant ou résilient, en tout cas. Donc, par exemple, il y a un des spectacles qu'on joue où on a trois tissus et un tabouret. Donc, pas de... Voilà, il n'y a aucun... aucun élément qui se jette. D'ailleurs, c'est un des tabourets qui est chez moi après, sinon le reste du jour. Et on ne se déplace que en transport en commun pour aller jouer le spectacle à gauche à droite. On essaye de rester à 150 km autour de chez nous voilà, le coût carbone du spectacle est vraiment égal à zéro ou quasiment. Et on essaye comme ça, voilà, d'avoir aussi une éthique de représentation qui correspond à ce qu'on veut dire et à ce qui paraît dans les spectacles, même si je crois, quand on voit les spectacles, quels qu'ils soient, que c'est quelque chose qui permet qui nous porte pour créer le spectacle, mais qui n'est pas du tout didactique. Donc ce n'est pas forcément ce qu'on va ressentir quand on va voir ces spectacles-là.
Pour la pause musicale, nous écoutons votre choix, Bruno. Et votre choix, je vous laisse le dire et l'expliquer.
Oui, alors c'est Rudin Kaufman, qui est un musicien, plasticien, performeur, poète montpelliérain. Et la chanson s'appelle Aquestigen, donc c'est une chanson de révolte catalane qui là est traduite en occitan. Et Rudin Kaufman fait partie des poètes du projet Navigation Poétique Euro-Région.
Eh bien, maintenant, écoutons donc cette révolte.
De bue matí en picar, escondu darrere la porta, la mà era sortiga d'obrir, havia la blonda prestada, que vuelo aquest gent, que ven un picar a l'alba, vuestre fiu és pas aquí, és endormir dins sa cambra, que li voler a mon fill. Lo fio de si desfiava, que vuelo aquest gent, que ven un pica a l'alba, la mà era ben ponessant, de totes les esperances, de son fio estudiant, mai eu comprens si cala, que vuelo aquest gent, que ven un pica a l'alba. Que parla pas, et cada nuit s'agitava, li venia une tremolée, craignait une cri d'alarme, que vuelo a Castille, que venu pica l'aubo, en cara mou desvia, en tenja bella sunado, si lança subrande de fuero, o qui tramper la fenestra, que vuelo a Castille, que venu pica l'aubo, e que picu restu mur, mancu besaie u che meno.
Vous êtes sur Radio FM+, 91 FM, c'est le fil du fer. Bruno Paterno est au micro de l'émission. Abordons maintenant le projet Navigatio Poétique Eurorégion, Bruno, et donnons à entendre aussi tout le travail derrière son élaboration. D'abord, qu'est-ce que Navigatio Poétique Eurorégion et pourquoi ce nom ? Je n'imagine pas que c'est un clin d'œil pour le groupe Poetic Lover.
Non, il s'agit de réunir donc deux pays, trois régions, quatre langues et à peu près sept dialectes, et de se retrouver entre personnes qui écrivent pour essayer de voir et de travailler sur ce qu'on appelle l'intercompréhension. C'est-à-dire que quand on parle deux langues romanes, en règle générale, si on a envie de comprendre et d'être compris, on arrive à échanger avec d'autres personnes. Donc, par exemple, moi qui parle français et occitan, si j'ai en face de moi quelqu'un qui parle espagnol, catalan, portugais, corse, italien, si j'ai envie de le comprendre et que l'autre personne a envie d'être comprise, on arrive à échanger ensemble. Et donc l'idée, c'était de travailler sur cette question-là et de voir si ça marchait ou pas. Et donc, du coup, on a monté un projet euro-régional. Donc, l'euro-région est une structure qui est peu connue et qui mérite de l'être. C'est-à-dire que toute région frontalière a forcément une euro-région. Nous, en Occitanie, c'est qui va réunir l'Occitanie, la Catalogne et les Baléares. Et donc, l'idée, c'est d'avoir des projets qui peuvent réunir des acteurs et des actrices de ces trois régions-là. Donc, nous, c'est une compagnie gardoise, compagnie Rêve du 22 mars, un festival qui est à Terrassa, à côté de Barcelone, donc en Catalogne, qui s'appelle l'Elixir Poétique Festival, et la Mallorca Literaria, qui est une maison d'écrivains, qui conserve les maisons des grands écrivains mallorquins et qui s'occupe aussi de faire rayonner un peu la vie littéraire à Majorque. Et donc ces trois structures-là se sont unies pour accueillir sept personnes qui écrivent, donc avec de sept endroits très différents de l'écriture, mais avec toujours l'envie de passer par l'écrit pour une langue qui sera à un moment donné oralisée. Donc ça peut être du théâtre, ça peut être de la performance poétique sonore, ça peut être du rap, ça peut être du slam, ça peut être toutes les façons dont à un moment donné on passe par l'écrit pour dire quelque chose et où ensuite ça va être oralisé. Et donc à la fois en français, en occitan, provençal ou languedocien, en catalan de Majorque ou de Catalogne, et en castillan. Et donc on s'est réunis tous les sept, à la fois en virtuel et en réel, à la fois en Catalogne et au Baléares, et on a passé du temps à discuter, à échanger autour des sujets qui intéressent la compagnie, c'est-à-dire les questions en isme, donc régionalisme, féminisme et écologisme, et de voir comment ces choses-là étaient liées ou pas, et le rapport qu'on avait chacun à son territoire. Qu'est-ce qui fait une relation au territoire ? Et puis de discuter aussi sur, c'est ce qu'on retrouvera pendant le festival Texte en cours, sur la question de l'être auteur, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'on se sent écrivant ou pas, professionnel ou pas, et comment est-ce qu'on vit son rapport à l'écriture dans deux situations qui sont très différentes, hein, puisque la France et l'Espagne ne sont pas du tout sur les mêmes critères sociaux, notamment, et de voir comment est-ce que ça pouvait changer radicalement les choses dans la façon dont on pouvait écrire.
Et quels sont les publics visés par Navegatio ?
C'est comme pour la compagnie, c'est un triple public. Donc, et le but du jeu, c'est que ces trois types de publics puissent se réunir en même temps et que ça ne pose pas problème. C'est-à-dire à la fois des gens qui sont complètement néophytes sur cette question-là. Le but du jeu, c'est qu'on puisse passer une soirée agréable, même si on ne comprend pas ou qu'on n'entend pas l'espagnol, le catalan, l'occitan. Ou le français, puisque quand on a fait des lectures en Catalogne, il fallait que ça puisse être accessible pour des gens qui ne parlaient pas français, tout en ayant du français à l'intérieur de la soirée. Des gens qui, au contraire, parlent très très bien ces langues-là, donc du coup, ça fait que ça pose la question de la traduction et de la redondance. Et puis, des gens qui le comprennent sans le comprendre, tout en sachant qu'ils comprennent, mais sans vraiment assumer qu'ils comprennent. Voilà, on a aussi beaucoup de gens qui vont d'abord vous dire moi je parle pas toi, mais je parle pas occitan. Ah ben oui, ben si, en fait, tu vas comprendre. Et donc, qui ont un rapport compliqué aux langues minorées ou un rapport compliqué à la langue étrangère, qui vont vous dire « je parle pas espagnol » alors qu'en fait ils entendent très très bien. Et donc c'est d'arriver à faire en sorte que tous ces publics-là puissent se retrouver en même temps, au même endroit, au même moment et finalement passer une bonne soirée.
Je n'en doute pas. Elixir, poétique festival de Terrassa, en Catalogne espagnole, et Mallorca Literatura des îles Baléares, pardon, comme vous l'avez dit, sont les principaux partenaires de la compagnie Rêve du 22 mars. Qu'est-ce qui a guidé votre choix et comment avez-vous motivé l'engagement donc de ces institutions dans un projet au long cours ?
Là, ce qui était intéressant, c'est qu'on avait une compagnie, un festival, un lieu de résidence, donc trois structures très différentes qui allaient pouvoir travailler ensemble. Et du coup, ça portait des choses complètement distinctes. C'était aussi l'Institut Ramon Llull, qui est un institut important pour la langue catalane, qui nous a mis en lien et en commun, de même que pour ici Occitanie en Seine et la maison Antoine Vitez. Donc ils sont des gens qui dont le métier beaucoup est de faire des ponts et de faire des liens entre les structures. Donc là, ça a été le cas et ça a bien marché. Ça permettait aussi, puisqu'on avait donc des expertises et des savoirs différents, et puis aussi des intérêts à certains endroits un peu différents. Donc tout d'un coup, d'avoir un festival queer et une grande maison qui gardienne du temple de la littérature classique, c'était intéressant de les mettre ensemble pour voir un peu qui ils allaient choisir, puisque chacune des structures amenait deux à trois poètes. Et donc, du coup, de faire en sorte, les sept poètes se sont rencontrés la première fois à la première résidence sans s'être vus avant et en venant chacun d'horizons très différents.
Navegatio Poétique Euro-Région est un projet d'envergure européenne. Du point de vue administratif et logistique, quelles sont les étapes à passer ? Quels sont les services à contacter pour que votre équipe au sein de la compagnie Rêve du 22 mars, je les cite David Charpin et Nathalie Baye, vos partenaires espagnols et vous-même puissiez faire aboutir Navegatio ? Ça a l'air d'être un énorme chantier.
Oui, c'est un énorme chantier. Ça a mis 3 ans avant de se monter aussi. Parce que nous, dans la compagnie, on aime bien faire les choses un peu tranquillement et sur le temps long. Et c'est un projet qui se fera sur au moins 3 ans, c'est-à-dire une première année d'écriture, puis une année de production et de répétition, et après une année de représentation et ensuite de reprise du spectacle pour l'avoir au répertoire. L'idée, la première chose, c'est donc de contacter l'Eurorégion, cette structure-là en elle-même, qui, de toute façon, fonctionne sur des dossiers qui sont de plus en plus complexes à remplir au fur et à mesure de l'avancement du dossier. Donc, au début, ça reste un dossier assez simple, et puis petit à petit, plus on avance, plus le dossier devient important. Donc plus on est au clair avec ce qu'on veut faire, plus le dossier demande d'être très clair et précis. Effectivement, c'est beaucoup de temps et d'énergie à la fois pour David et Gabriel, et c'est vraiment un travail qu'on a fait en trio.
Quel est leur rôle à chacun d'eux?
Alors, il y a le fait d'être capable de transcrire, je dirais, en chiffres les lettres pour tout ce qui va être sur les questions d'administration, et puis de permettre de faire rentrer les rêves dans des cases. Et puis aussi des choses toutes simples, de respecter les délais, d'avoir le bon nombre de pages et le bon nombre de caractères sur ce qui est demandé, d'objectiver les choses pour que, voilà, comme c'est de l'argent public, que la puissance publique puisse être rassurée. Et après, c'est sur la question de la production. On pourrait dire que Gabriel, c'est Madame Puget, parce qu'elle met de l'huile un peu partout. Elle fait en sorte que, voilà, que les choses fonctionnent, que là où tout d'un coup un mail a été oublié, ou quelqu'un n'a pas rendu tel dossier, ou il manque, on ne sait pas très bien comment aller, enfin même après sur la feuille de route, quoi, comment aller d'un endroit à un autre. Il s'agit de faire en sorte que les choses fonctionnent bien. Donc il faut d'abord mettre les rêves sur le papier, et ensuite faire en sorte que ces rêves-là existent.
Une question que pourraient se poser les ronchons pour Navigatio Poétique Eurorégion: être élu et engagé politiquement, ça aide?
Alors là, pas du tout, puisque donc la compagnie est dans le Gard et moi je suis dans l'Hérault, donc du coup c'est pas du tout les choses sont très très séparées, et je crois que je suis l'élu qui s'abstient qui ne prend pas part le plus de fois au vote, puisque tout ce qui est culturel, justement, c'est des endroits où je vais pas prendre part au vote, afin justement de pouvoir laisser ces choix-là à mes collègues qui sont à la culture, et moi je m'occupe de choses qui sont pas du tout culturelles, quoique.
Vous avez donc fait les études de lettres modernes, occitan, art du spectacle à l'université Paul Valéry. Vous avez suivi des cours au conservatoire d'art dramatique de Nîmes et de Montpellier. L'idée d'un énorme projet comme Navigatio Poétique Eurorégion apparaît-elle parce qu'elle découle uniquement de votre parcours post-bac et de vos activités?
En tout cas, oui, ça c'était assez logique et cohérent que ça vienne de là. Ça vient aussi du fait que je travaille beaucoup avec la Maison des Littératures de Nîmes, animée par Denis Lannoy, où on reçoit justement plein d'écrivains et d'écrivaines du vivant, et qui vont être, pas que théâtraux. Donc ça c'est aussi quelque chose qui a créé chez moi une appétence pour la poésie contemporaine et pour le fait de venir m'intéresser au slam, au rap, à d'autres structures. Et oui, c'est un projet qui me ressemble, ça c'est certain.
Dernière question: quel est le programme et les actions à venir concernant Navigatio Poétique Eurorégion? Et deuxième question dans cette dernière question: où est-ce qu'on pourra vous entendre?
Alors là, on en est donc dans la partie où on finit la première, on appelle ça des caravelles, la première caravelle de la navigation. Donc, c'est-à-dire que on est en train de finir les moments d'écriture. Donc, on a fait une présentation pendant l'Elixir Festival, et puis à Majorque Literaria. Et là, côté français, on va présenter certains retours de certains écrits pendant le festival Texte en cours, qui se tiendra mi-novembre. L'idée étant que, en gros, ont été produits pendant ces résidences d'écriture trois types de textes. Les textes qui doivent tenir debout à l'oral, des textes qui tiendront sur le papier et qui seront, ceux-là, plutôt édités dans une coédition d'une maison gardoise et d'une maison catalane. Et Mallorca Literaria s'occupe d'édition. Et puis après, tous les textes qui sont un peu bâtards, un peu entre, un peu innovants, vont eux exister sur un site internet qu'on est en train de sortir et qui sera lancé normalement en milieu d'année prochaine. Et puis après, voilà, on va avec à l'intérieur de tous ces textes-là en prendre une partie, les récupérer, les travailler pour créer ce qui en catalan s'appelle un tablao, voilà, une sorte de cabaret littéraire et fantasque où d'une fois sur l'autre on pourra entendre ces textes-là dans toutes ces langues-là. Mais ça, c'est voilà, pour dans très longtemps. Là, pour l'instant, on va présenter le résultat brut des textes pour le festival Texte en cours.
Vous venez d'écouter Le Fil du Fer consacré à Bruno Paternot. Merci Bruno. Vous pourrez donc le rencontrer et l'entendre à la Brasserie Le Dôme lundi 15 novembre 2021 à partir de 19h. Ce sera dans le cadre donc du Festival Texte en cours auquel Radio FM Plus est partenaire. Chers auditeurs et auditrices, à bientôt pour un autre invité ou une autre invitée et un autre entretien. Thank you.